bizarre est incompréhensible. Pourtant, ce n'est que le début. La veille du départ de Suisse, les pompes funèbres proposent à Stéphanie et à ses proches de se recueillir une dernière fois devant la dépouille avant que le cercueil, qui va être scellé pour le passage de la frontière, soit refermé. Stéphanie demande à ses amis d'entrer d'abord. Elle désire être seule et passer en dernier. Sitôt dans la petite salle où se trouve le cercueil, Stéphanie, emplie de tristesse, perd la notion du temps. Elle est en larmes, consciente que ce sera son dernier moment avec Léo. Il faut lui rendre hommage. Ce temps est sacré. Mais son désespoir est si profond qu'elle se demande si elle n'est pas en train de perdre la raison. Elle aimerait ne plus jamais sortir de cette pièce, y passer sa vie entière. Que le temps s'arrête, que les journées qui viennent de s'écouler n'aient jamais existé. Revenir en arrière, effacer l'accident, ne pas couper ce lien, rester avec Léo, oh oui, ne pas le quitter. Elle est effondrée de douleur, les yeux rougis braqués sur ce visage irréel. Et d'un coup, presque malgré moi, j'ai cessé de pleurer. Décrivez-moi ce qui s'est passé. J'ai cessé de pleurer parce que j'ai commencé à sentir une onde monter en moi, une sorte de vibration de bien-être, de détente, d'amour, quelque chose de bouleversant qui a irradié tout mon corps. Et puis, j'ai entendu une phrase. « Tu peux sortir. Ici, il ne se passera plus rien. Maintenant, c'est ailleurs. » Dans la pièce ? Ce n'était pas forcément la voix de Léo, mais je l'ai clairement entendue. Non, ça ne venait pas de la pièce. J'avais l'impression que quelqu'un me chuchotait à l'oreille ou qu'on me parlait dans ma tête. Ce n'était ni ma voix ni la sienne, mais c'était ces mots-là. Je les ai écrits le soir même pour ne pas les oublier.
« Tu peux sortir. Ici, il ne se passera plus rien. Maintenant, c'est ailleurs. »
Oui. Et le plus curieux, c'est que presque instantanément, j'ai réalisé que je n'avais plus rien à faire là. C'était fini. Si je n'avais pas entendu cette phrase et ressenti cette onde de bien-être, je ne sais pas comment j'aurais fait.
Pour
sortir du tourbillon de tristesse dans lequel je plongeais. C'est comme si quelque chose ou quelqu'un était venu m'extraire de ma torpeur. J'ai alors été en mesure de faire ce que j'avais prévu de faire, puis je suis ressorti du funérarium.
Comment interprétez-vous cette expérience?
C'est lui qui m'aidait, qui essayait de me guider et de me consoler. Je l'ai vécu comme ça.
Ça, c'est la manière dont vous avez compris l'événement aujourd'hui. Mais sur le moment...
Même si je ne me l'avouais pas clairement, ce qui s'est passé dans cette salle du funérarium a ancré en moi une sorte de certitude, d'évidence qu'il était toujours là et qu'il allait m'aider. Sa phrase « Sors maintenant, c'est ailleurs » m'a donné une bouffée d'espoir. L'espoir qu'il y a quelque chose après. Cette expérience m'a aidé à tenir et à ne pas sombrer dans la dépression et même la folie, je pense.
Léo était-il branché sur des sujets spirituels?
Lui, oui. Moi, moins. Mais on n'en avait pas beaucoup parlé. Enfin, bizarrement, nous avions pas mal discuté de la mort avant de partir en Suisse. Ce qui ne nous ressemblait pas.
Point curieux que je découvre à ce stade de mon entretien avec Stéphanie et qui va faire écho avec d'autres.
Cette sensation inhabituelle de danger imminent qui parfois précède un décès, ici de quelques jours.
Je questionne Stéphanie sur la possibilité que Léo, étant relativement novice en base jump, ait pu appréhender ce voyage en Suisse et que les craintes qu'il a exprimées ne soient pas surprenantes compte tenu de la situation. Elle en convient, mais précise.
Il avait un peu peur, il en était conscient. Et malgré tout, il voulait quand même faire l'expérience. Mais la veille, ou peut-être l'avant-veille de notre départ, il m'a dit « En fait, j'ai peur, parce que j'ai vu la mort. »
« J'ai vu la mort ?»
Oui, il m'a confié qu'il avait vu la mort lui expliquer qu'il ne fallait pas qu'il y aille.
« Mais comment ça, voir la mort ? Que voulait-il dire ?»
On n'est pas allé plus loin. Je me souviens avoir essayé de le questionner, mais il m'a dit « Non, non, laisse tomber. » Il n'a pas voulu s'étendre.
Vous souvenez-vous de ces mots exacts ?
Comme ça, j'ai vu la mort. Genre, il faut peut-être pas que j'y aille.
Comme une mise en garde. Et pourquoi n'en a-t-il pas tenu compte ?
Il avait vraiment envie de faire ce voyage. Et puis, pourquoi remettre en question ce qu'il préparait depuis plus d'un an sur la base d'une seule sensation ? Comment même aujourd'hui avoir la certitude qu'il avait senti ce qui allait se passer et que ce n'était pas juste une coïncidence ?
Bien sûr.
Même s'il n'a pas voulu m'en dire plus sur le moment, je pense qu'il a mis ça sur le compte du stress, de l'appréhension. On partait le lendemain. Il commençait à flipper, à se demander si c'était une bonne idée, dernier coup de stress et de questionnement, avant de faire un truc un peu risqué. Il m'en a parlé parce que ça l'avait interpellé, mais on n'en a pas tenu compte.
Comment en effet dissocier dans nos ressentis, nos pensées, dans ces signaux inconscients qui jalonnent nos existences, ce qui est de l'ordre de nos productions émotionnelles, nos peurs ou nos désirs, de ce qui pourrait constituer des prémonitions, des moments d'intuition, des brèches ouvertes sur le futur. Quelques jours avant la mort accidentelle de mon frère Thomas en Afghanistan en 2001, les signes avaient été nombreux, mais ils demeuraient illisibles. Comment aurait-il pu en être autrement ? Nous n'avons jamais appris à comprendre comment fonctionne notre intuition. Nous n'avons reçu aucune éducation nous invitant à utiliser rationnellement notre sixième sens. Les funérailles ont lieu une dizaine de jours après l'accident. Léo doit être enterré près de chez son père dans une petite commune de banlieue au nord de Paris. Rentré en France en même temps que la dépouille de son compagnon, Stéphanie a rejoint sa maison de Seine-et-Marne, au sud de la capitale. Étrange journée que celle qui suit un événement si inattendu et brutal. Le jour dit, Stéphanie veut à tout prix faire la route seule de chez elle jusqu'au cimetière. Elle appréhende beaucoup de se retrouver parmi tout ce monde. La cérémonie à l'église, l'inhumation, l'accueil des proches chez le père de Léo, va-t-elle parvenir à supporter ces longues heures à venir ? Elle ne s'en sent pas capable. L'angoisse l'étreint. Sur l'autoroute, dans sa petite voiture, un profond désarroi la gagne. Elle se demande si elle ne va pas faire demi-tour. Et à nouveau sur le point de craquer, il se produit quelque chose de parfaitement étrange.
J'étais tellement mal. Et puis, sans que je m'y attende, j'ai senti une masse occuper le siège passager. C'est difficile à expliquer. Comme si cet espace vide à ma droite subitement était plein.
Vous ne vous êtes pas dit que la douleur provoque ces sensations ?
Non. À aucun moment je n'ai pu imaginer que c'est moi qui provoquais ça. C'était si étrange. À nouveau, il y a eu cette onde de bien-être et d'amour qui m'a envahi avec tellement de force. Je ressentais soudain une telle détente, une bouffée de bien-être, de bienveillance. J'étais persuadé qu'il était assis à côté de moi, que Léo se trouvait dans cet espace à côté de moi.
Dans cette expérience au funérarium, puis ensuite dans la voiture, quelle est votre première pensée ?
Je suis intrigué par ce que je ressens et ce qui se passe, mais à aucun moment je ne me dis que c'est moi qui le provoque. Ça m'intrigue. J'ai du mal à y croire. Je suis étonné. Je ne comprends pas. Mais sur l'instant, je sais que c'est lui. Après, je me mets à douter, effectivement.
Et quand vous doutez, vous vous dites quoi ?
Si ça se trouve, c'est toi. C'est un mécanisme d'autodéfense du cerveau. Essaie de ne pas trop t'accrocher à ça. » Mais ça s'est passé tellement de fois.
Vous avez vécu d'autres moments où vous sentiez sa présence ?
Oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, avec exactement les mêmes sensations. Il vient se positionner à côté de moi, je sens sa présence physique. Parfois même, il m'entoure, et à chaque fois, cela s'accompagne de cette bouffée de bien-être. C'est arrivé dans la voiture, dans mon lit, assis sur le canapé. Et sur le moment, oui, je sais que c'est Léo.
Durant les premiers temps du deuil, ces sensations de présence, comme si Léo se trouvait à côté d'elle, vont être assez fréquentes dans le quotidien de Stéphanie. Parfois, cela se manifeste à plusieurs reprises dans la même journée. Puis, pendant 15 jours, il ne se passe rien. L'expérience ne semble obéir à aucune règle. La nuit, il arrive occasionnellement que Stéphanie soit réveillée en sursaut par un « Steph » vif, net, fort, qui la sort brusquement du sommeil, persuadée que quelqu'un dans la chambre vient de l'appeler. Durant les premières semaines qui suivent le décès de Léo, Stéphanie se nourrit de ses expériences en laissant en quelque sorte son jugement en suspens. Ses journées sont bercées de tristesse, de moments de douleur intense puis d'accalmie. Mais le manque est si terrible, le vide est là et lui colle à la peau, lui noue le ventre. Elle sent par instant cette étrange présence si fugace de Léo, mais lui n'est pas là, il n'est plus là, il ne reviendra jamais. L'esprit de Stéphanie oscille en permanence entre doute et certitude, entre une mélancolie sourde et ses secondes de trop éphémère bien-être, entre la raison qui lui commande de ne pas s'accrocher à ses sensations subjectives et la confiance qui l'habite soudain lorsqu'elle est submergée par cette bouffée d'amour et qu'elle sait alors que Léo se trouve à ses côtés. On en veut toujours plus en pareille situation. Je connais ça. Moi qui ai cherché mon frère pendant des années, aveugle à toutes les rencontres qui se sont produites, au prétexte que je ne pouvais jamais être sûr. Mais est-ce lui ? N'est-ce pas plutôt moi qui imagine ? Comment arrêter la torture mentale ? La raison peut nous y conduire. L'accumulation d'éléments aussi, comme ça va être le cas pour Stéphanie quand elle va voir Léo. Et elle ne sera pas la seule. Chapitre 3. L'autre visite. À l'instant où Léo se tue dans la vallée de Lauterbrunnen, en Suisse, Eric, son ami d'enfance, passe quelques jours au Cap Ferré, à plus d'un millier de kilomètres de là. Il est avec sa compagne, Nathalie, chez les parents de cette dernière qui y possède une maison. En fin d'après-midi, le téléphone d'Éric se met à sonner. Mais c'est dimanche, il décide de ne pas répondre. Cependant, les minutes qui suivent, la sonnerie retentit à plusieurs reprises et cela commence à inquiéter Nathalie.
Je lui ai dit, « Tu devrais répondre, c'est peut-être grave. »
Éric décroche. La conversation est assez brève.
« Ça va ? C'était qui ?»
lui demande Nathalie. Il se tourne vers sa compagne.
« Léo a eu un accident. »«
Ah bon ? C'est pas trop grave ?»«
Si. Il est mort. »
Nathalie reste sans voix. Éric est sonné. Il sort dans le jardin. Nathalie ne comprend pas. Qu'est-il arrivé ?
Elle ignore que le meilleur ami de son compagnon était parti ce week-end-là faire du base jump en Suisse.
Elle rejoint Eric à l'extérieur. Il pleure et lui livre les quelques détails dont il dispose. Le voyage, la falaise, l'accident.
Ils joignent la famille, des amis, et la fin de la journée passe irréelle.
Nathalie et Eric décident de rentrer en région parisienne le lendemain.
Le lundi, sur la route, ils sont sous le choc de la nouvelle dont ils ne parviennent pas encore à prendre toute la mesure.
Long moment de silence et de stupeur, pleurs soudain.
C'est trop impensable, brutal, rapide.
Léo et Eric se connaissaient depuis la petite enfance, des amis de toujours, deux frères de cœur.
De son côté, Nathalie avait fait la connaissance de Léo en même temps que son histoire commençait avec Eric, 18 ans auparavant. Toutes ces années, une solide relation d'amitié s'était construite au fil de leurs activités communes. Escalade, commémoration des grands événements de la vie, naissance, anniversaire. Ils arrivent à Paris tard dans la soirée. Exténués émotionnellement, ils décident de se coucher rapidement. Il doit être à peine plus de 22 heures. Leur chambre donne sur une voie privée éclairée par plusieurs lampadaires et les fenêtres ne sont occultées que par de fins rideaux. Une clarté diffuse baigne la chambre. Ils s'allongent l'un contre l'autre dans la pâle obscurité et la tristesse. Nathalie se souvient. Tout à coup, peut-être 50 centimètres au-dessus de moi, il était là. Il y avait une force.
Qui était là?
Léo. Léo était là au-dessus de moi. Mon premier réflexe a été d'être super gêné de sa présence parce que j'étais nu. Je ne supporte pas de dormir avec quelque chose sur le corps.
Nathalie est embarrassée de me livrer ce détail, mais il a son importance. Elle ne sait pas combien de temps s'est écoulé depuis qu'elle et Eric se sont couchés, mais subitement, elle prend conscience que Léo se trouve juste au-dessus d'elle.
Vous l'avez vu?
Oui, je l'ai vu. Je sentais son souffle également, et même, si elle a été assez fugace, l'expérience a été extrêmement intense. J'ai attrapé la couette pour me couvrir parce que je me sentais vraiment mal à l'aise. Et ça m'a fait peur.
Peur?
Ben, j'étais nu et il était juste au-dessus de moi. Ça me gênait et j'étais tellement surprise.
Vous distinguiez quelque chose dans le noir?
La chambre n'était pas dans l'obscurité. Et oui, je l'ai clairement vu. Il nous regardait sans rien dire. Juste au-dessus d'Éric et moi. J'avais l'impression qu'il venait nous consoler, car on ne s'était pas dit au revoir. Il est resté un long moment au-dessus du lit. Il flottait, allongé dans l'air, à 50 centimètres du lit, de nous. Son visage, son regard si soutenu.
Vous l'avez vu aussi nettement?
Oui. Et ça m'a fait peur. Alors j'ai fermé les yeux assez vite. Mais j'ai continué à sentir sa présence. Je le sentais.
Combien de temps estimez-vous que cela ait duré?
Quelques minutes.
Ah oui?
Oui, peut-être 2, 3 minutes.
C'est long?
Je ne sais pas. Ça m'a paru long.
Éric dormait?
Non. Mais il n'a rien vu, rien senti. Cette expérience m'a figé. Je me souviens avoir eu la sensation d'être paralysé dans mon lit. Ma première réaction a été de me couvrir tout de suite de ma couette et je n'ai plus fait un mouvement ensuite. Je suis resté immobile, les yeux fermés, avec cette présence si palpable au-dessus.
Êtes-vous certaine que vous ne dormiez pas?
Oh ça oui, j'en suis sûr. Dès qu'il m'a semblé que ça s'arrêtait, que la présence n'était plus là, j'ai tout de suite dit à Eric « J'ai senti Léo. J'ai senti Léo. » Je l'ai surpris. Lui n'avait rien perçu du tout. « Je te jure, je viens de sentir Léo. Il était là. » Et puis, on a arrêté d'en parler. On est restés tous les deux dans le noir, lui avec sa peine et moi vraiment stupéfaite. Comme il n'avait rien vu de son côté, je me suis demandé si ce n'était pas moi qui délirais.
Comment Eric a-t-il accueilli ce que vous avez raconté?
Il m'a cru. Je me souviens de lui avoir dit que Léo était au-dessus de nous, mais la douleur de perdre un frère était si terrible pour lui que sur le moment, il n'a pas vraiment réagi. Trop de peine. Pour Eric, c'était tellement lourd, comme si soudain un pan de sa vie disparaissait.
Les jours qui suivent, Nathalie ne sait que penser de cette expérience.
Était-ce Léo?
Son regard si insistant, tellement intense.
Au début,
Lorsque je l'ai vue, ses yeux étaient extrêmement denses. Je me suis fait la réflexion qu'il voulait s'assurer que je le voyais bien, que j'avais bien conscience de sa présence.
Et aujourd'hui, avec le recul, que pensez-vous qu'il se soit passé cette nuit-là?
Je pense qu'il était là.
Qu'est-ce qui vous conduit à dire cela?
La manière dont ça s'est passé. Cette densité du regard, cette présence si réelle. Et puis, je me suis dit que c'était presque normal qu'il ait eu envie de revenir. Je ne sais pas comment exprimer cela. Ça devait être trop soudain pour lui.
Il vous semblait avoir conscience de ce qui venait de se produire?
Oui. Cet au revoir était calme. Je ne sentais pas de stress en lui. Oui, je pense qu'il savait qu'il était mort.
Ce calme, cette lucidité sont également ce qui ressort des expériences vécues par Stéphanie juste après la mort de Léo. Dans ce temps où il est possiblement venu rendre visite à Nathalie et Éric, avant même que son corps soit rapatrié, tous le décrivent en paix, réconfortant. Le départ de Léo va rapprocher Nathalie et Stéphanie. Jusqu'alors, elles s'étaient croisées à plusieurs reprises sans éprouver le besoin de faire plus ample connaissance. Elles se parlent désormais plus régulièrement au téléphone. Et lorsque Stéphanie lui confie quelques mois plus tard avoir été terrifiée par l'apparition de son compagnon dans sa maison, cette confidence trouble Nathalie en même temps qu'elle la rassure d'une certaine manière. Sa propre visite de Léo ressemble à ce que raconte Stéphanie. Chapitre 4. Apparition. À peine un mois s'est écoulé depuis l'accident qui a coûté la vie à Léo. Stéphanie passe le plus clair de son temps seule chez elle. Elle tient à cet isolement. Besoin d'être dans cette solitude, de se confronter à sa détresse, à sa douleur, de cheminer à son rythme dans cette nouvelle vie à laquelle rien ne peut préparer. Sa famille est présente, mais discrète, comme ses amis, et le gros de ses journées se passe en l'unique présence de son chien. Le rez-de-chaussée de la maison de Stéphanie est composé d'une grande pièce traversante avec un coin cuisine délimité par un bar à l'américaine. À quelques mètres du bar, une porte-fenêtre ouvre sur la terrasse. Ce jour-là, Stéphanie est accoudée au bar côté cuisine et est subitement distraite de la tâche qui l'occupe par la sensation d'une ombre passant dans son champ de vision. Elle redresse la tête et découvre Léo. Il est là, dans l'encadrement de la porte-fenêtre. Il se tient debout. Ce sont ses traits, son apparence, sa posture. Les contours de son corps sont un peu flous, mais je reconnais son allure physique. Il est plus petit qu'en vrai. En taille?
Oui, en taille. Moins grand qu'en vrai, et les contours sont flous, sauf son visage qui est net.
À quel moment de la journée est-ce?
En pleine journée.
Vous réagissez comment?
Je crie, je suis affolé, j'ai peur, clairement. Je reste immobile, pétrifié. Et il disparaît.
Combien de temps cela a-t-il duré?
Le temps de le voir, de crier. Peut-être 5 secondes, quelque chose comme ça.
Pardonnez ma question, mais n'auriez-vous pas pu confondre, être abusé par, je ne sais pas, quelque chose qui passe dehors?
Ah non, là non. Je suis devant la cuisine, de côté par rapport à la porte-fenêtre. Je sens qu'il y a quelque chose en limite de mon champ de vision, quelque chose qui fait de l'ombre au niveau de la fenêtre. Je tourne la tête et je le vois. Je le vois. J'ai le temps de me dire « Mais non, non, c'est pas vrai, c'est lui !» Et je réalise que ce n'est pas possible. Et avec cette pensée vient la peur qui monte, et je crie. C'est long, 5 secondes. Alors, non, ça ne vient pas de moi. C'est totalement ahurissant, aberrant, inconcevable, incompréhensible, mais voilà. Ça m'est arrivé. Ça s'est vraiment passé. Et ça s'est reproduit quelques jours après.
Comment ça ?
Une autre vision très similaire. Je suis en train de traverser le salon en direction du cellier qui se trouve derrière la cuisine. Et alors que je tourne pour m'y rendre, je l'aperçois debout à côté du frigo.
Quelle a été votre réaction cette fois ?
Pareil. Ça m'a vraiment foutu les jetons. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier. J'étais incapable de faire le moindre mouvement. Puis il a disparu.
Avec le recul, qu'en pensez-vous ?
Que c'est génial, mais que ça fait trop peur. Alors, tout de suite après, j'ai voulu lui parler. « Est-ce que c'est toi que j'ai vu ?»
Parce que voilà, je me demande quand même si j'hallucine ou pas.
Bon, je ne prenais rien, ni antidépresseur, ni aucun traitement. Mais quand même, c'est bizarre. Et puis, avec les autres choses que je vivais,